Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
De Chavannes cherche copains. Mais c'est quoi ce truc?
Bah oui, je cherche des copains. Alors c'est un podcast, mais où effectivement je vais rencontrer des gens. Je m'enflamme pour des causes. Défenseurs de cannabis, vaccinologues, des stars du dessin, des médias, des auteurs, des associatifs, des hommes politiques. Attendez, on est allé jusqu'au président de la République, vous voyez. Des blogueuses, des blogueurs, des jeunes, des moins jeunes. Et puis des TikTokers. Des TikTokers. Je kiffe en fait. Et j'espère bien que mon podcast va me permettre de rencontrer des gens de qualité. Et je chante même. Ouais. De Chavannes cherche copains. Des copains. De Chavannes cherche copains. A tout de suite, les amis. Comment allez-vous, Hugo?
Très bien, je vous remercie. Et vous?
Très bien, je vous remercie. pas de sarcasme. Je vais très bien. Un petit peu mal à la cheville, mais tout va bien. Alors, vous êtes une tête. J'ai eu le plaisir de vous rencontrer quand vous êtes venu faire qu'à l'époque l'émission de Léa Salamé, à laquelle j'ai eu le plaisir de participer. J'ai trouvé votre bouquin absolument incroyable. Alors, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce qu'un podcast peut faire empêcher les gens de dormir? Parce que votre bouquin, il est extrêmement intéressant et on va en parler immédiatement. Mais vous qui êtes chercheur en sciences politiques, professeur à Sciences Po et à Princeton, vous avez interviewé donc 80 djihadistes et à travers ce bouquin, on est très informé et c'est très flippant.
Alors, je vais vous dire comment moi je vois les trucs, mais c'est aussi une déformation professionnelle. Mais à force de travailler sur ce sujet, je considère que ce qui fait peur, c'est plutôt d'ignorer le phénomène que de savoir exactement ce qu'il en est. Et donc, moi, mon travail, c'est plutôt de penser que parce qu'on arrive à un moment donné à comprendre ce qu'est le djihadisme, d'où ça vient et où ça va, que finalement, on en fait sens et donc on arrive à restreindre l'angoisse. Parce que l'angoisse, c'est l'idée de se dire qu'on peut être frappé par les attentats n'importe où,
mais
n'importe
quand. Mais on sait
quand.
Où ça va ?
Non, en fait, ce qui est sûr, c'est que ce que la société, entre guillemets, attend de moi en tant que chercheur, c'est de produire un travail sérieux.
Donc, alors vous êtes chercheur, comment on arrive à être chercheur? Après, on va parler du bouquin, dont je vais donner le titre tout de suite pour pas que les gens disent « Oh là là, il a même pas donné le titre, on se casse ouais. ». Ça s'appelle « La colère et l'oubli, les démocraties face au djihadisme européen ». C'est chez Gallimard, extrêmement pointu, extrêmement documenté, forcément, parce que vous êtes chercheur. Ouais. Donc vous avez peut-être trouvé. Mais comment est-ce qu'on devient chercheur et particulièrement dans ce genre de domaine?
Ben moi c'est en fait le hasard, c'est-à-dire que je pensais vraiment que j'allais tout être sauf chercheur et à vrai dire.
Pensez quoi?
Ben j'avais
moniteur au Club Med.
J'avais en tête beaucoup de choses. En fait,
politique.
Non, pas vraiment. Quand je termine mes études, je sais pas ce que je veux faire. Par contre, il y a un truc, c'est que je sais que je veux écrire. Je veux continuer à apprendre l'arabe et je veux continuer à apprendre tout court. Et j'avais vécu un an et demi à Damas où j'avais appris l'arabe juste avant la guerre civile, donc entre 2008 et la fin 2009. Et je m'étais dit que ça serait lié de près ou de loin à la Syrie. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un an après être rentré en France, il y a le déclenchement de la crise syrienne.
Et, que vous n'avez pas senti venir?
Non, bah en fait, après...
C'était, quelle année?
Ça, c'est en 2011.
Okay.
Et ce qui est clair, c'est que quand je vivais en Syrie, j'avais bien compris que je vivais sous un régime autoritaire, avec tout ce que ça implique de l'État fait peur à tout le monde, on ne parle pas de politique, on a peur, tout le monde se regarde en chien de faïence dès qu'on prononce le nom du président Bachar al-Assad, etc.
Comment c'est aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est une, y a eu 500 000 morts, 11 millions de déplacés. Le pays est divisé en trois zones. Il y a une zone qui est contrôlée par le régime, une zone qui est contrôlée plus ou moins par la Turquie, et puis une zone de grand n'importe quoi, où on trouve toutes les forces internationales, les forces russes, Wagner, les États-Unis, les forces iraniennes, les forces kurdes, les forces turques, tout ça sur à peine un millier de kilomètres carrés. Donc, si vous voulez, tout se concentre dans cette zone.
C'est une marmite, en gros.
C'est une grosse marmite. Et d'ailleurs, c'est pour nos enjeux là, dont on discute, savoir l'avenir du djihadisme européen, bah, pour le coup, il y a aussi
alors, plusieurs... Le djihadisme européen, c'est le djihadisme qui se passe en Europe, ou c'est du djihadisme fait par des, soit des convertis, soit des radicalisés, mais européens.
Ben, c'est les deux. C'est-à-dire qu'en fait, historiquement, les idées djihadistes sont arrivées en Europe dans les années 90 par des gens qui avaient fait le djihad en Afghanistan et qui étaient des djihadistes syriens, algériens, égyptiens, mais on parle des années 90.
Et qui sont devenus à l'époque, pardon, je vous interromps, on va y aller progressivement, qui sont devenus à l'époque djihadistes, pourquoi ? Parce que mal dans leur pays et trouvant une nouvelle maman.
Ouais. Alors ça, c'est une question hyper importante. C'est assez. En fait, on connaît vraiment l'origine du djihadisme d'aujourd'hui, contemporain. C'est en fait c'est les années 80 et il y a un moment décisif, c'est l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS. Mmh. Ça, c'est une guerre qui se passe en 10 ans entre 79 et 89. Et en fait, les Américains vont considérer que là, il y a un coup à jouer contre l'URSS.
Et l'URSS officiellement, il va pour lutter contre.
Pour soutenir un régime qui n'était pas assez pro-communiste. En gros, l'idée, c'était de remplacer le régime. C'est un peu comme Poutine fait aujourd'hui avec l'Ukraine.
Oui, mais l'Ukraine, c'est mitoyen.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il va faire là-bas, en Syrie, à l'époque ?
En gros, en Afghanistan.
En Afghanistan, excusez-moi.
En Afghanistan, 10 ans de guerre atroce, pour la simple et bonne raison que l'URSS voulait mettre en place un régime pro-URSS à Kaboul. Et on avait jusque-là, si vous voulez...
L'intérêt pour eux, comme ça,
On est en pleine guerre froide, et ils avaient peur que si l'Afghanistan basculait, c'était la théorie des dominos, ils allaient perdre tout leur pays dans la région, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, toutes les républiques d'Asie centrale qui étaient pro-soviétiques. Et donc, à ce moment-là, ils se lancent dans ce qu'ils pensaient être une opération de courte durée.
Je parle pas des populations quand je dis on adore. Je parle des chefs qui sont...
Bien sûr.
Qu'on adore. Donc.
Et donc, du coup, ils se lancent dans une opération qui pensait être de courte durée, qui va rien coûter, etc.
Bien sûr.
Et en fait, c'est une guerre de 10 ans. Voilà, comme en Ukraine, sauf que là, ça devient une guerre de 10 ans. Et là-dedans, les États-Unis vont flairer le coup et vont se dire, mais en fait, c'est un petit peu comme le Vietnam. On n'a qu'à soutenir la résistance afghane contre l'URSS, mais aussi tous les volontaires qui voudront bien aller lutter contre eux. Et là, c'est là où on va voir le début du djihadisme, parce que parmi ces volontaires qui vont venir de l'ensemble du monde musulman, en fait, on a tous les groupes islamistes que...
Financés par les Américains, donc.
Alors, par tout le monde, par l'Arabie Saoudite, entraînée par le Pakistan et avec des financements occidentaux, et notamment des livraisons d'armes. Mais à l'époque, si vous voulez, ça passe comme la lutte contre l'URSS. Et ça, on ne voit pas du tout qu'en fait, derrière ça, il y a potentiellement un mouvement djihadiste qui va se créer et qui va donner Al-Qaïda.
Personne ne le voit venir.
C'était très délicat. Parce
est-ce que Al-Qaïda, lui-même ou les chefs d'Al-Qaïda, savaient qu'ils allaient pouvoir peut-être arriver à ça avec ça ?
Alors, c'est ce qu'ils espéraient, parce que typiquement, parmi ces fameux volontaires, donc les quelques milliers de volontaires islamistes qui vont partir en Afghanistan lutter contre l'URSS, il y a un certain Oussama Ben Laden, qu'aujourd'hui tout le monde connaît. Et ces gens-là vont tout de suite se dire, en fait, oui, on se bat contre l'URSS, mais à terme... Faut aussi se battre contre les États-Unis, faut aussi se battre contre l'Occident et faut monter une organisation globale. Et cette organisation, c'est Al-Qaïda. Et ça, c'est la fin des années 80. Et ce qui va se passer après la guerre d'Afghanistan, qui termine en 89, au même moment que la chute du mur de Berlin, et qui, tout ça entraîne la chute de l'URSS en 91, tout le monde se désintéresse de l'Afghanistan. Mais personne ne voit...
Et la guerre se termine pourquoi ? Parce que les Russes s'en vont.
Oui, parce que les Russes ont perdu. Et donc, concrètement, si vous voulez... Vous avez des djihadistes qui se sont regroupés dans une organisation qui s'appelle Al-Qaïda. Et alors, ils disent ce qui est faux historiquement.
Quand vous dites qu'ils ont perdu, ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient.
Ouais, c'est-à-dire.
Ou est-ce qu'ils ont vraiment été pulvérisés?
Non, ils se sont embourbés.
Comme les Américains au Vietnam.
Et voilà, exactement. Et ce qui devait être la guerre la plus courte une opération spéciale devenue la guerre la plus longue, la plus coûteuse en hommes et la plus coûteuse financièrement de l'URSS.
Ce qui va peut-être se passer en Ukraine,
c'est pour ça qu'il faut suivre. En tout cas, il y a plein de parallèles à faire.
Incroyable.
On attend les historiens là-dessus.
Tu veux dire qu'il peut se passer des choses en Ukraine?
En tout cas, en termes d'erreurs stratégiques, il est beaucoup trop tôt pour le dire, puisqu'on est encore au milieu. Mais en termes d'erreurs stratégiques, on voit déjà qu'il y a plein de parallèles.
Et des choses pourraient naître
Ben, il faut, alors,
de ça.
Oui, alors, ce qui est sûr et certain,
c'est des choses inconnues.
Des choses inconnues, à commencer par l'État ukrainien et peut-être un rebond de l'Europe, parce qu'on voit bien qu'autour de la guerre en Ukraine, tout d'un coup,
ce qui ne serait pas une mauvaise chose.
Ce qui ne serait pas une mauvaise chose. En tout cas, c'est ce à quoi ça nous, toute cette situation nous invite.
Un rebond de l'Europe est plus séduisant qu'une création de d'un groupe djihadiste.
Ben, dans tous les
cas, d'un mouvement même.
C'est ça, c'est-à-dire que là, il y a pour le coup en Ukraine, il n'y a pas de djihadistes au sens comme c'était le cas en Afghanistan. Donc, pour revenir à notre histoire, la fameuse histoire, quand Al-Qaïda est créé, on ne le voit pas comme quelque chose de très important. Quand l'URSS s'écroule et que finalement la guerre d'Afghanistan est terminée, on n'imagine pas une seule seconde.
91, on est là.
On est en 91, on n'imagine pas une seule seconde que finalement, on va avoir des individus plus ou moins liés à Al-Qaïda qui vont arriver en Europe et qui vont allumer des mèches en Europe. Et pourtant, c'est ça qui s'est joué. C'est-à-dire qu'on a...
Allumer des mèches, ça veut dire ?
C'est-à-dire, concrètement, on a des individus qui ont participé donc, à cette lutte, qui étaient plus ou moins liés à Al-Qaïda, en tout cas qui partageaient les idéaux djihadistes d'Al-Qaïda. Et ils vont quitter l'Afghanistan. On va les retrouver un peu partout dans le monde, en Indonésie, en Afrique.
Musulmans.
Oui, dans le monde de manière générale.
Non, mais des musulmans.
Des musulmans, des islamistes, des gens convaincus des idées de Ben Laden, qu'il faut créer un califat mondial, lutter contre
et
les États-Unis.
Pourquoi est-ce que des gens sont devenus comme ça, à votre avis ?
Alors, il y a plusieurs facteurs. Le premier élément, c'est que le djihadisme...
Est-ce que c'est des gens qui se sentaient perdus là où ils étaient ?
Non, il y a un élément qui est constant et qui est très fort et qu'on sous-estime, c'est l'idéologie. Il y a une idéologie, c'est-à-dire que derrière les djihadistes, ils ont un idéal, ce qu'on a du mal à voir. Mmh. Et eux, typiquement, ils pensent, alors à tort ou à raison, mais c'est ce qui les anime, et surtout ces premiers djihadistes, là, en Afghanistan, qu'ils ont Dieu avec eux, c'est ça. Qu'un jour, ils vont réussir à conquérir le monde entier.
Ça, c'est une vraie pensée.
C'est une vraie pensée qui structure un mode d'action. Ça paraît un peu fou, dit comme ça, mais quand vous rentrez ensuite dans la tectonique un peu des plaques, de leur logique, etc., vous voyez que, par exemple... la façon dont ils ont approché cette guerre contre les soviétiques, c'était, pour eux, c'était pas la guerre contre les soviétiques. C'était la guerre contre des ennemis de l'islam qui avaient envahi une terre d'islam, l'Afghanistan, et qu'il fallait chasser. Quand les soviétiques se retirent, ils disent, regardez, on vous l'avait dit, on l'a fait, et on l'a fait grâce à Dieu. Donc demain, on va faire la même chose avec les États-Unis. On va frapper les États-Unis sur leur sol.
World Trade Center.
Ils retireront leurs troupes du Moyen-Orient ou leur soutien au régime allié des États-Unis dans la région, et nous, on pourra prendre ces pays par des insurrections, révolutions,
etc. Petit à petit, la planète,
enfin, en tout cas, reconstituer un califat dans le monde musulman, et puis un jour,
énorme, c'est la plus grosse partie de l'humanité.
Ça, c'était le projet. Alors, encore une fois...
On est d'accord, je dis une bêtise.
La population musulmane, on parle de 1,7, 1,8 milliard d'individus. Donc, Et on est un peu moins de 7 ou autour de 7.
Ah oui, non, c'est pas...
Mais c'est une immense partie. Et on voit bien cette logique. Alors évidemment, elle a tout un tas de limites, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que pour en revenir à l'Europe, on va trouver des gens qui pensaient ça, qui avaient été dans ce mouvement, et qui vont arriver en Europe, et notamment à Londres. Et contrairement à ce
qu'on... Ils sont accueillis quasiment à bras ouverts. Enfin, en tout cas,
Ils sont perçus à l'époque comme des opposants politiques, parce que parmi eux, on a typiquement des proches de Ben Laden qui sont des Saoudiens et qui disent « nous sommes des opposants à l'Arabie Saoudite ». La réalité, c'est que ce sont des militants djihadistes. Et donc, on n'arrive pas forcément à faire la différence. Et en fait, ce qu'on ne voit pas, surtout, c'est qu'au-delà de dire qu'ils sont des opposants saoudiens, etc., c'est qu'ils vont quand même très rapidement s'intéresser à la jeunesse musulmane en Europe. Et c'est ça qu'on rate, c'est qu'en fait, on les prend pour des opposants étrangers. Et eux,
ils sont venus racoler.
Et voilà, ils sont venus faire ce qu'on appelle aujourd'hui du prosélytisme, c'est-à-dire que ils sont pas nombreux. Hein. Attention, on parle de microcosme à Londres, qui est un peu le centre à ce moment-là de regroupement de ces individus. Ils sont quelques douzaines.
Ah putain. Ouais.
Donc c'est pas beaucoup à l'échelle d'une ville monde comme Londres.
Et aujourd'hui,
si on s'en fie à des chiffres fiables, c'est-à-dire le nombre de départs d'Européens pour la guerre en Syrie, on avait 6000 Européens. Donc, c'est ça dont on parle. C'est comment un phénomène où il y avait...
6000 Européens non musulmans.
Non, 6000 Européens musulmans impliqués...
Ou convertis.
Okay. Donc, nés musulmans d'origine musulmane ou bien convertis, qui ont rejoint des groupes djihadistes en Syrie.
Donc, et qui maintenant reviennent.
Il y a 3/3 sur ces 6000. Il y en a 1/3 qui a été tué au front, principalement les hommes au combat. Il y a 1/3 qui est encore sur place, mais dans des prisons. Souvent détenus par des Kurdes. Donc là, on a des femmes, des enfants, c'est les fameux camps qu'on voit à la télé, le camp de, notamment de Al-Hol dans le nord de la Syrie. Et pour les hommes, ils sont dans des prisons aussi encadrées par les forces kurdes qui ont lutté contre Daesh. Et puis, il y a un autre tiers qui est rentré en Europe et qui, pour la plupart, pour ce qui s'agit des majeurs, en tout cas, est en détention aujourd'hui.
Ils sont en prison. Et ils vont sortir bientôt.
D'ailleurs, 2023, c'est une année importante parce qu'il y a beaucoup de djihadistes de retour de Syrie qui vont sortir de prison en 2023.
C'est la question que tout le monde se pose.
Ouais.
C'est, ils vont sortir, dans quel état d'esprit ?
Ben, c'est, alors moi, c'est ce que je traite notamment dans le livre, hein, abondamment. J'ai fait beaucoup de terrain en prison. Alors, à la marge, il y a toujours des individus qui vont en sortir et c'est un phénomène qui existe. Et d'ailleurs, peut-être qu'il faudrait mieux
qui
exploiter.
Qui vont s'en sortir.
Vont quitter l'idéologie.
Ah oui.
Et qui,
oui, il y a
des
quelques individus seulement.
Ce qu'on appelle les repentis.
Ouais.
Ça, il y en a en Angleterre, il y en a aux États-Unis. Moi, j'en ai rencontré un que je cite dans le livre, J.C. Morton. Voilà, c'est un Américain converti.
Incroyable.
Qui a rejoint à un moment donné Al-Qaïda, qui a recruté, qui a envoyé plein de gens chez Daesh. Et il a été retourné, lui, c'est comme ça qu'il le dit, par le FBI. Et à un moment donné, il s'était carrément investi dans tout ce qui était lutte contre la radicalisation, etc. Ces cas-là existent, il y en a quelques-uns. Et les Anglo-Saxons, notamment les Britanniques, sont très forts là-dessus. Ils arrivent, ils en ont plusieurs, qui écrivent des livres, qui vont dans les écoles, qui vont dans les prisons, etc. Maintenant, si on veut être réaliste, c'est pas la majorité des cas des individus qui sont...
Tout le monde le sait, j'imagine, en tout cas les renseignements.
Bah, on l'espère. Après, c'est vrai qu'il n'y a aucune naïveté de ce côté-là.
Mais on ne va pas mettre un flic derrière chaque garçon qui sort de prison.
Ça, c'est tout le problème des nombres. C'est-à-dire que quand on avait quelques douzaines d'individus comme ça dans les années 90 ou même au début des années 2000, le phénomène était gérable parce qu'on était sur des petits nombres. À partir du moment...
Contenu et surveillé.
Voilà, pour surveiller, pour encadrer et pour prévenir des attentats. Quand on commence à avoir plusieurs milliers d'individus comme ça, déjà, ça complique considérablement tout ce travail de surveillance. Et moi, tout mon propos, c'est de dire qu'en fait, si on s'intéresse qu'aux attentats, on s'intéresse à la fin du film. Et que si
oui,
on veut
si
comprendre...
C'est le dernier wagon, c'est trop tard.
C'est ça, c'est le dernier wagon.
On risque même de le louper.
Ouais. Et puis, en fait, on s'expose déjà à des conséquences dramatiques.
C'est déjà ce qui s'est passé.
Bah, c'est ce qui se passe depuis 30 ans.
Oui.
Et moi, c'est pour ça que je parle dans le livre de marée basse et de marée haute.
Oui, des fameuses vagues.
Les fameuses vagues. Les marées hautes, c'est les moments d'attentats. C'est quand il y a des campagnes d'attentats. Donc, typiquement, celle de Daesh entre 2014 et 2017 avec les attentats
Vous
de Paris.
Vous dites que c'est par décennie, il y a à peu près deux vagues.
Voilà, il y a une période de pic, de marée haute ouais. avec des attentats. Et puis, généralement, il y a des décrues parce qu'on arrête les gens, parce qu'on détruit les bases arrières d'Al-Qaïda en Afghanistan ou parce qu'on détruit Daesh en Syrie, en Irak. Mais ce que je dis, c'est qu'on peut détruire une organisation sur le plan militaire, mais si on a l'idéologie, elle ne se détruit pas par des balles. Et donc, c'est pour ça qu'il faut s'intéresser aux idées.
Mais comment c'est possible ?
Ben, moi, ce que j'explique, c'est que...
On ne peut pas enchaîner des gars pour écouter...
Ben surtout pas.
Pour écouter, non, mais on ne peut pas enchaîner des gens pour écouter d'autres personnes qui vont leur expliquer que, entre guillemets, cette idéologie-là n'est pas un bon plan pour l'humanité. Quoi.
Non, bien sûr que non, parce qu'à l'état de droit, il faut respecter les limites de l'état de droit. Et d'ailleurs, c'est un peu le piège qu'ils nous tendent. Ils sont là et ils nous disent, bah, si vous voulez nous arrêter, vous n'avez qu'à tous nous tuer, puis vous ne serez plus une démocratie. Et en fait, ça, il faut faire très attention avec ces...
Ah, c'est ça.
Bah, c'est
ce fil de chantage-là.
Ben oui, vous regardez, leur grand truc, c'est de dire, finalement, vous allez ressembler aux dictatures du monde arabe contre lesquelles on s'est levé, vous allez ressembler à l'Égypte de Moubarak, vous allez vouloir tous nous tuer, et puis après, vous ne pourrez plus nous dire que vous êtes une démocratie. Et là, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et les démocraties, elles sont fortes justement parce qu'il y a l'état de droit, mais par contre, il ne faut pas être naïf. Et ce qu'on a eu un peu tendance à faire face aux djihadistes sur les 30 dernières années, c'est qu'on a eu tendance à penser que le problème se réglerait tout seul. Et à manquer finalement d'expertise, je crois. On n'a pas essayé de comprendre comment se développer.
On a été au cas par cas, quoi.
Au cas par cas, et un peu, en fait, considérer que tant qu'il n'y avait pas d'attentat, il n'y avait pas de problème.
Oui, on en a joué beaucoup, là.
Ben, beaucoup. Et
il y a des chiffres, vous avez des chiffres.
Alors, je veux pas vous dire de bêtises, mais vous devez les avoir en tête. Pour moi, on était de l'ordre de la cinquantaine, mais...
Il y en a aussi près de 50 qui ont été commis. Avec 800 morts et 100 000 blessés depuis 2001.
Depuis 2001,
ouais.
on a effectivement...
Des centaines de tentatives déjouées, alors de Brest à Vienne, de Glasgow à Milan,
ouais.
De Barcelone à Oslo, c'est-à-dire, c'est un quadrillage, je crois.
Toute l'Europe.
Ouais. Et il y a une Europe particulièrement visée ou pas ?
Ouais. Alors déjà, la France a été quand même très visée, pour plein de raisons. Hein, mais
Et depuis toujours, en fait. Ouais. On a été un des premiers pays plus visés. On sait pourquoi.
La France a été touchée juste après les États-Unis. Les États-Unis, c'est le premier pays occidental visé en 93. On l'a oublié. Hein.
Ambassade.
Non, c'était un attentat contre le World Trade Center.
Ok, donc, oui, tout à fait.
Comme les attentats de 2001. Et puis après, la France est visée en 95. C'est les attentats de Saint-Michel, du métro Saint-Michel.
95.
C'est juillet 95.
Et okay, qu'est-ce qu'il y a eu en 86 alors?
Ah oui, alors ça, c'est les attentats de la rue des Rosiers, mais c'est un autre terrorisme. Moi, j'ai pris le chiffre de Sinile parce que c'est un chiffre dont on connaît avec exactitude le nombre. Parce que toute la difficulté, c'est de savoir aujourd'hui combien il y en a. Parce que si vous voulez, ce qui se passe...
Non, on ne sait pas combien il y en a.
On ne peut pas savoir.
Parce qu'il y a quand même, entre guillemets, du sauvage et isolé qui peut faire beaucoup de mal.
Oui, et puis c'est toujours pareil. C'est souvent, on sait combien il y en a a posteriori. C'est pour ça que moi, je choisis d'utiliser les 6000 départs pour la Syrie comme un nombre fixe. Parce que
donc
là, Un tiers est mort, un tiers en prison dans le nord de la Syrie et l'Irak. Et un tiers qui est rentré. Et parmi eux, il y a des enfants, il y a des mineurs. Il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes, il y a
des mineurs qui ont été élevés comme des djihadistes.
Qui ont passé quelques années, la plupart du temps,
des
quelques
enfants
années.
Qui ont appris à démonter une Kalachnikov, à la remonter, qu'on a même fait tuer des gens, il y a eu des images terribles.
Ouais, à partir de 7 ans, ils étaient utilisés par Daesh.
Ils pouvaient tuer.
Voilà. Et le but derrière ça c'est ce qu'on va retrouver historiquement, on a plein de traces de ça dans plein de groupes totalitaires, les nazis, etc. C'est les enfants soldats en Afrique, c'est on fait commettre l'irréparable à l'enfant pour lui casser sa boussole morale. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a commis, une fois qu'un enfant a tué ou voire a participé à des exactions, il y a plein de vidéos de Daesh qui sont atroces là-dessus. Derrière, c'est en fait, il sait plus ce qu'est le bien et le mal. Et derrière, en fait, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Et ça, c'était des méthodes de manipulation vraiment qu'on a vu dans plein d'autres groupes. Et je pense aux groupes d'enfants soldats en Afrique. C'est après, ça devient des enfants tueurs.
C'est fou. Ils avaient 12 ans, des Kalachnikovs. Ils pouvaient décimer une famille.
Ils ont plus de limites. Ouais. Et donc, Daesh, toute la logique de Daesh en Syrie et en Irak, c'était de dire, à partir de 7 ans ou de 9 ans, on peut employer les enfants dans les exactions. Et ils en ont fait une publicité, quoi. Ils en ont fait de la propagande sur Internet, etc. Et ils disaient que ils appelaient ça les lionceaux du califat. Donc ça dit d'autres choses. Et là, je pense qu'il faut faire attention, Christophe. C'est pour ça que je dis toujours, oui, ça fait peur, mais il faut aussi prendre du recul. C'est de la propagande. C'est-à-dire que le but, c'est de faire peur. Ça veut pas dire que...
Ça existe.
Et donc, ça existe. C'est un phénomène, mais ça veut dire aussi qu'il faut...
Quelques centaines de gamins, probablement.
Ouais, c'est ce qui est
beaucoup. Pas des milliers, quand même.
Au total, il y a eu des milliers de gamins sous Daesh, mais ils sont pas tous européens. Pour ce qui s'agit des Européens, on est sur plusieurs centaines, Avec aujourd'hui qu'une partie d'entre eux qui est rentrée. Et là-dedans, faut pas oublier, vous avez tout. Vous avez des tout petits enfants qui sont nés sur place et qui sont rentrés à 2 ans. Et vous en avez d'autres qui sont arrivés à 10 ans sur place et qui ont passé 5 ans sur zone. Donc là, pour le coup, ils ont passé une adolescence
compliquée.
Au cœur de la pire guerre civile.
Ils sont revenus.
Il y en a quelques-uns qui sont revenus. Et donc, toute la question qui se pose dans ces cas-là, c'est la prise en charge.
Est-ce que des gens les rencontrent?
Oui.
Des gens parlent avec eux?
Oui, il y a tout un... Moi-même, là, dans le mois prochain, je vais en voir certains. En région parisienne.
Et, ils sont en liberté.
Ils sont élevés. Alors, certains sont pris en charge par leur famille, généralement, ça peut être des grands-parents, ça peut être des oncles et tantes. Et puis d'autres, en fonction de la situation, peuvent être aussi placés au service de l'État. Donc, ça va être l'Agence sociale pour l'enfance, l'ASE. Mais dans tous les cas, il y a quand même un dispositif. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas les enfants sont pas rapatriés et lâchés dans la nature. Il y a quand même une prise de conscience de l'importance de ces enjeux qui est forte.
Et on sait le résultat ?
Non, là-dessus, vous voyez, c'est ça qui est très dur. C'est qu'il faut à la fois, on n'a pas beaucoup de recul et c'est des formes d'expérimentation. Maintenant, si vous voulez, ce sont des défis qu'on doit être capable aussi de gérer à l'échelle d'une démocratie de 67 millions d'habitants comme la France. Je veux dire, on a des moyens.
Alors, j'étais en train de penser à l'argent. Parce que je me dis que toutes ces choses qui arrivent depuis 20, 30, 40 ans qui n'existaient pas demandent des moyens absolument colossaux pour lutter contre, comme on dit.
Ouais.
Et on a l'impression que, évidemment, plus ça va, moins les économies vont bien. Les dépenses qui doivent être faites, est-ce qu'on a les moyens de le personnel, les moyens pour lutter, pour regarder, pour s'apercevoir, pour empêcher éventuellement.
Ouais, ouais. Au niveau renseignement, sécurité, tout ça, il y a eu des augmentations de budget assez importantes ces dernières années. Donc,
partout.
Oui, donc là, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais de ce point de vue-là, il y a eu des efforts considérables qui ont été faits avec des embauches, avec maintenant, en ce qui concerne typiquement un certain nombre de travailleurs sociaux sur le terrain, ou tout simplement un certain nombre de services de la justice. Mmh. Là, c'est quand même, bah, comme pas mal de services publics, depuis 10-15 ans, il y a moins de moyens. Moi, j'ai été frappé parfois de voir, en me rendant voilà, dans des zones où il y avait eu pas mal de départs pour la Syrie et tout, on rencontre des éducateurs qui ont travaillé sans avoir... Ils voyaient tout, ils ont fait des rapports et c'était pas toujours super bien traité. Mais globalement, quand même, la France, il faut pas l'oublier, a un bon maillage de son territoire, surtout comparé à d'autres voisins européens. Il y a encore des financements et... Faut pas oublier, c'est parfois c'est juste aussi comment on utilise les ressources à disposition. Je vais vous prendre un exemple, on en avait parlé, mais un des recruteurs de Daesh que j'avais rencontré en prison, lui quand je lui avais dit mais c'est quoi concrètement recruteur pour Daesh, ça ressemble à quoi ton job entre guillemets, et il m'avait dit bah tu vois un éducateur dans les quartiers, bah on fait la même chose mais à l'inverse, on cherche pas à l'intégrer en France, dans la République, à lui trouver un boulot ou quoi, on cherche au contraire à l'en sortir,
à lui expliquer que c'est de la merde,
à lui expliquer que tout ça c'est tout pourri et qu'il y a une alternative et de le pousser dans ce sens-là.
Et ils le font au vu de tous, c'est ça qui m'épate.
Alors au vu de tous, c'était le cas avant. Maintenant, je pense que il y a eu quand même une prise de conscience.
Hein.
Oui, justement, il y a eu, depuis les attentats de 2015-2016 en France. Il y a eu quand même une prise de conscience. Ce qui ne veut pas dire qu'on en a fini avec le phénomène, pas du tout. Mais dans les années 2000, ce que je décris dans le livre, c'est que dans les années 2000, on a raté plein de trucs. Et notamment, ce genre de phénomène...
Les recruteurs de rue.
Et voilà. Et des gars qui, typiquement, les frères Klein... Alors, ça ne doit pas parler à tout le monde, je vais expliquer qui sont les frères Klein. Les frères Klein, c'est ceux qui vont revendiquer les attentats du 13 novembre depuis la Syrie pour le compte de Daesh. Et ce sont des Toulousains convertis à l'islam... qui vont être les premiers djihadistes en région toulousaine, en tout cas les premiers djihadistes français du coin, et ils vont créer tout un groupe autour d'eux, d'une dizaine de personnes au début des années 2000, et c'est eux qui vont un peu recruter ce qui va ensuite devenir les djihadistes toulousains de Daesh 15 ans plus tard.
Mohamed Merah, machin.
Mohamed Merah, il y en a plein. Hein, Sabri Essid, qui d'ailleurs, on voit dans une vidéo... Sabri Essid, on le voit dans une vidéo de Daesh... et il met en scène son propre beau-fils qui a 11 ans, qui exécute un otage. Donc ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'utilisation des enfants. Typiquement, ce Toulousain, il a
donc mis... Donc là, c'est une vraie idéologie qui fait ce Toulousain arriver là, sans se poser de questions.
Et qu'est-ce que faisaient les frères Klein donc, toute
c'est pas des revanches sur leur propre vie, c'est pas des...
Ils sont nés dans une famille catholique, leur mère était prof de catéchisme. Incroyable. Enfin, on n'est pas sur le profil, si vous voulez, d'un... j'aime pas trop parler comme ça, mais du cliché d'un banlieusard qui aurait été dépossédé de tout. Enfin, c'est des individus qui, moi, j'ai rencontré un certain membre du groupe, etc. Ce sont des gars qui étaient convaincus du bien fondé de leur cause. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre, les frères Klein.
Enfin, pousser son beau-fils à 11 ans, bah ouais, à tirer d'une balle dans la tête, à tuer d'une balle dans la tête quelqu'un, c'est compliqué à...
Ah ben moi je justifie pas du tout.
Ah mais je dis pas que vous dites ça.
Non mais ce que je veux dire c'est qu'on va se retrouver si on veut comprendre comment ça fonctionne, et encore une fois c'est une idéologie qui est totalement meurtrière.
Mais est-ce qu'on peut parler d'intellectuel ou d'intellectualisme dans ces cas-là?
Mais vous avez des idéologues derrière, et ça ce que je montre aussi dans le livre qui est très important, c'est qu'ils
écrivent des gars qui tiennent les ficelles de la marionnette.
Mais qui écrivent des livres, qui font des cours d'ailleurs entre eux, ils s'appellent professeurs, enfin vous voyez, ils se distinguent de... Et ça, c'est là aussi, ils considèrent que le djihadisme est un savoir. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça paraît vraiment très bizarre à distance, mais ils ont les frères Klein, par
donc
exemple.
On est dans le premier degré complet, en fait.
Ils sont littéralistes. Ils ont une approche littéraliste du texte, du texte sacré de l'islam qui est le Coran. Ils ont des interprétations extrêmement doctrinales. Et mais par contre.
Enfin, ils ont des interprétations, en fait.
Des interprétations,
ouais. Parce que c'est une interprétation. Pour les musulmans, la plupart, le Coran ne trimballe pas des idées maléfiques.
Bien sûr. Et c'est...
Maléfique, je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot, mais on a compris ce que je voulais dire.
Oui, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils arrivent avec une interprétation qui est très spécifique, qui est très conflictuelle. Mais ce qu'ils vont dire, eux, c'est pas qu'ils tiennent une interprétation. C'est ils vont dire qu'ils ont le savoir.
C'est que nous, on sait pas.
Et voilà.
On sait
et pas que le lire. Tous les autres musulmans ont rien compris.
Ils savent pas le lire.
Voir qu'ils sont en train, selon leur propre thème, de sortir de l'islam. Et que les mécréants, c'est-à-dire les non-musulmans, sont des ennemis par définition, par défaut, si vous voulez. Et donc ça, c'est cette logique-là. Eux, ils considèrent qu'ils ont, voilà, qu'ils détiennent l'islam véridique, si vous voulez.
Et aujourd'hui, ils sont en évolution de nombre. Ça stagne, ça diminue. Non, ça évolue.
Ben, c'est encore une fois, si on pouvait quantifier, finalement, il y aurait presque pas de problème. Ce qu'on sait, c'est que on peut se fier à combien il y avait de djihadistes européens impliqués dans les réseaux djihadistes dans les années 90. Là, on en avait quelques dizaines. Combien il y en avait avec Daesh, donc la décennie passée, on en avait 6000. Donc là, ça veut dire qu'on a fait x 100 entre le nombre de djihadistes des années 90 en 20 ans, 25 ans, quoi, en une génération, si vous voulez. Donc, ça veut dire que le phénomène s'est plutôt accéléré. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément continuer comme ça, mais ça veut dire que...
Foissant, c'est beaucoup. Hein.
C'est un phénomène qui s'est accéléré rapidement. Et donc, ça veut dire qu'il faut se poser la question de quels ont été les moteurs de cette croissance. L'éclin, pour revenir sur eux, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des matchs de basket avec les gamins du coin. Ils allaient sur les terrains de basket et ils jouaient au basket avec eux. Puis après, ils disaient « Eh, tu veux pas venir ? Après, on va parler un peu de religion, ça peut t'intéresser. » Alors, tous les gamins rentraient pas dans le... Et Dieu merci, si j'ose dire.
Aujourd'hui, ça continue ça ?
Ben, aujourd'hui, c'est plus compliqué de le faire aussi visiblement. Mais par contre, sur Internet, vous allez sur Internet, par exemple, là, vous avez beaucoup de contenu djihadiste facilement accessible. Et vous avez aussi, en amont du contenu djihadiste purement, on va dire, violent, etc., vous avez la diffusion d'un discours religieux qui est très radical, qui n'est pas forcément djihadiste, mais qui est très radical et qui construit, si vous voulez, qui se construit en opposition, qui construit un... Il y aurait un « eux » et un « nous » qui seraient très distincts. « Eux », ça serait tout ce qui est le monde des mécréants, de la démocratie d'un côté, et puis de l'autre côté, des musulmans qui seraient des bons musulmans, justement parce qu'ils s'opposeraient à tout ça. Et il faut faire très attention à ces logiques.
Et tous les conseils que vous les donnez à quelqu'un dans nos autorités supérieures ?
Mais
vous
alors,
en parlez ?
Moi, je donne pas...
Vous faites livrer votre bouquin, moi.
Ouais, alors moi, je considère pas du tout que je donne des conseils. D'ailleurs, je considère même pas que c'est mon boulot. Mon boulot, c'est d'établir, c'est de faire des recherches qui permettent d'établir le diagnostic. Mais je suis pas seulement... Enfin, si on fait une comparaison médicale, je fais le diagnostic, je vends pas les médicaments. Parce que pourquoi je vous dis ça?
Non, mais
pas
vous pouvez faire une ordonnance.
Je peux en tout cas dire, voilà, je pense que le problème se situe là, etc. Mais d'une, dans la recherche, il y a d'autres chercheurs, je suis pas tout seul, encore heureux. Et d'autre part... ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis peut-être pas le plus qualifié en France pour faire des recommandations de politique publique. Vous voyez ce que je veux dire par là, c'est que si on a des hommes politiques et des ministres et et tout un tas d'individus qui travaillent sur ces sujets depuis 30 ans...
Je pose une question bête.
Ouais.
C'est complètement con parce que vous pouvez pas me répondre vraiment franchement, mais est-ce qu'on doit vraiment avoir peur encore?
Parce
non. Que là, on est dans quelle vague là?
On est dans le creux de la vague.
Mais on se situe dans quel moment par rapport au le sac et le ressac?
Ah bah si j'étais capable de vous dire ça, je serais pas là, Christophe. Bah,
vous l'avez un peu dit.
Non, je pense que là, on est très clairement on est plutôt dans une période de creux
qu'il faut donc se méfier.
Oui, mais aussi, il faut en profiter, justement, pour essayer de comprendre le phénomène. On a du temps, entre guillemets. Parce que
mais ce qui on, est... c'est qui?
Mais on, c'est une bonne question. Ça, c'est une question de chercheur. Le on, si vous voulez, quand je dis on, en l'occurrence, c'est un on collectif. C'est-à-dire nous, collectivement, Français, Européens, si vous voulez, si on veut comprendre et tirer des leçons de ce qui s'est passé avec la campagne d'attentat, c'est maintenant. Il faut pas attendre la prochaine vague. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut s'intéresser à la logique du djihadisme, parce qu'il y a une logique.
Qui
N'importe quel citoyen français.
Non, un dentiste de Montbéliard.
Eh ben ouais. Et moi, je vous le dis clairement, je pense sincèrement que la solution, ça passe par des gens qui, a priori, sont très, 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 très éloignés de ce sujet, mais qui vont se l'approprier de la même façon que, je sais pas, le réchauffement climatique ou que le chômage.
J'ai pas l'impression que c'est la même chose, moi.
Dans le sens, c'est un enjeu qui est politique et c'est un enjeu qui est sociétal. Et si on croit qu'il y a que des spécialistes qui doivent en parler, on se
trompe. Ah oui, non.
Je crois sincèrement. Et d'ailleurs,
ça veut dire quoi? Ça veut dire tendre la main, aller voir, aller parler, aller discuter. Dès qu'on a un doute, dès que.
Oui, et puis lire. Lire, enfin je veux dire, là c'est, moi si j'écris un livre, c'est aussi à un moment donné,
oui,
parce que je pense que...
Et je sais qu'on en apprend des choses avec votre bouquin, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? À part À part, okay. On apprend plein de choses.
Ok.
C'est très intéressant.
Ouais.
Ça fout un peu la trouille. Et que faire, moi? Bon, moi encore, si. Ouais. Je peux vous faire parler, je peux faire parler des gens, voilà. Mais des lambda, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec cette connaissance-là?
Mais moi, j'ai toujours tendance à penser que globalement, ce qu'on peut en faire, ça dépend
là,
tout un chacun. Mais
agir. En
moi,
fait.
J'ai toujours été énormément nourri, justement parce que au cours d'une conférence ou en allant sur le terrain, il y avait tel individu qui avait telle expérience et ce que je lui disais résonnait avec son expérience personnelle. Et donc, cette femme ou cet homme allait me dire « Mais vous savez, moi, j'ai vu ça, je pense ça, si j'avais su à l'époque que, etc. » Donc, un problème, c'est plus du tout la même chose une fois qu'on en a conscience de quand on l'ignore. Quand on l'ignore, on ne sait pas, ça peut nous tourner dessus. Donc, c'est de ce point de vue-là...
Oui, mais il faut partager ce qu'on sait. Hein.
Ouais,
alors, vous le faites à travers vos livres, mais le dentiste de Montbéliard, contre lequel je n'ai rien, je ne sais pas qui il est.
Ouais.
Mais...
Qu'on salue.
Qu'on salue, ben oui. Peut-être même les deux, il y en a peut-être deux.
De ce point de vue-là... Il est citoyen. Et c'est ça la force des démocraties. C'est que le pouvoir, il n'est pas concentré dans trois personnes comme dans les régimes totalitaires. En démocratie, il y a le démos, c'est-à-dire le peuple, qui peut s'approprier toutes les questions et en faire des enjeux et en discuter. Et si on reprend, je dis n'importe quoi, si on reprend l'exemple des Klein, par exemple, si le palier, le voisin de palier des frères Klein avait compris à peu près ce qu'ils se tramaient et ce qu'ils étaient en train de faire. Peut-être qu'il aurait fait remonter ça. Peut-être qu'au niveau du quartier, il aurait organisé lui aussi, avec d'autres voisins, etc.
Des matchs de basket différents.
Des matchs de basket, ou peut-être qu'il aurait tout de suite, il serait peut-être allé voir le fils de la voisine en disant « Attention, là, t'es en train de suivre ces gars-là, je te le recommande pas. » Ce que je veux dire, c'est que la démocratie produit ses propres antidotes et que, de ce point de vue-là, il faut plutôt avoir confiance en l'avenir. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que chacun doit faire aussi un peu sa part.
Il faut faire sa part, c'est clair. Et donc, pour faire sa part, peut-être il faut avoir un peu peur.
Ça, c'est chacun est libre. Moi, en tant que chercheur, je pense que...
C'est pas une bonne motivation d'habitude, c'est pas un bon moteur.
Ouais, moi, je trouve, peut-être que... Moi, je trouve que la curiosité et l'envie de comprendre est un meilleur moteur. Ouais. Et puis, surtout, peut-être...
Mais est-ce qu'on doit avoir peur, quand même? Est-ce que vous êtes...
On n'est pas sorti...
On n'a pas le cul sorti des
ronces. Ouais, en fait, voilà. Christophe, je crois que la meilleure manière de résumer ça, c'est de dire le djihadiste s'est construit sur 30 ans. C'est à la fois peu et c'est à la fois très long.
Il va pas s'arrêter.
On va pas en sortir en 3 semaines.
Non.
Donc, par contre, on est là dans une période où on peut se saisir de ces enjeux. Et moi, mon rôle, c'est juste d'être un chercheur et de produire ce travail. Et là...
Est-ce que vous savez sérieusement si votre bouquin a été lu par des gens en place?
Franchement...
J'espérais.
Le livre a dû être lu, mais en fait, j'en ai aucune garantie. Et je vais vous dire, ça m'importe pas tant que ça. Je veux dire, tant mieux si le...
Mais c'était une demande, après j'arrête.
Non.
C'est vous.
Oui. Ah non. Et puis, je répondrai à aucune demande.
Non. Est-ce que c'était une demande de faire ce bouquin?
Non. C'est moi que je m'en suis rendu compte. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait aucune histoire du djihadisme européen qui avait été écrite, ce qui est hallucinant quand on pense à l'importance du phénomène.
Donc c'est un boulot de ouf que vous avez fait sur combien de temps?
C'est 3 ans.
3 ans. Pas payé donc, par personne?
En tant que chercheur, on est quand même payé. À l'époque, j'étais à Princeton, aux États-Unis.
Okay.
Donc j'étais dans un programme de recherche qui durait 2 ans et demi à Princeton.
D'accord.
Et je leur ai dit, j'aimerais travailler sur ça.
Vous avez choisi, entre guillemets, la thèse?
Donc ça c'est un travail qu'on appelle de post-doctorat, c'est après la thèse. Et franchement, là-dessus, c'est aussi ça qui est intéressant avec le travail de chercheur. C'est que vous voyez, si on décide de bien le faire...
Ce qui est le cas avec votre bouquin.
En tout cas, j'essaye de me montrer à la hauteur des enjeux, mais c'est un boulot formidable pour ça. C'est que...
Et votre prochain truc, alors?
Ah, c'est une bonne question.
Parce que là, vous n'êtes plus à Princeton.
Non,
Speak English fluently. Donc, ça y est, vous avez appris à parler anglais, c'est bon.
Je parle un petit peu de français, un petit peu d'anglais.
Et de l'arabe.
Et un petit peu d'arabe.
Voilà.
Et donc, du coup. إذا بدك نحكي بالعربي
شكرا
نعمل المقابلة بالعربي
شكرا على الواجب qu'est-ce que vous avez dit?
J'ai dit si vous voulez on peut parler en arabe, on peut faire
c'est
l'entretien
très joli,
en arabe.
C'est très joli en tout cas, c'est une belle langue.
C'est du pour le coup c'est du ammi et c'est du syrien.
C'est très joli.
Et donc du coup tout ça pour dire que le prochain, je sais pas, là je considère que j'ai terminé un cycle, ça fait 10 ans que je travaille sur ces enjeux. Je pense qu'il y a encore plein d'autres choses à dire, mais moi je sais pas si j'aurai beaucoup de la possibilité de me renouveler.
L'intelligence artificielle.
Ça c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et de lier ça avec justement le débat démocratique.
Ah bah.
Et
ça, ça va aller très vite, ça va pas demander 30 ans. Hein.
Ouais, ouais.
Ça va pas demander 30 ans. Ouais. Ça va être un autre djihadisme, ça.
Et ça en va tout être cas, violent, ça, va, ça risque de renforcer les violences politiques. Ouais.
Ah bah, et
là, c'est un énorme enjeu démocratique et je trouve qu'on n'y réfléchit pas.
Vous avez vu ce qu'a dit Elon Musk, hein?
Il a dit quoi?
Il a dit, c'est à peu près de quoi il parle. Hein.
Ouais, ouais.
Il a dit que d'ici 2050, il y a une chance sur 6 pour que l'humanité soit quasiment détruite à cause de l'IA.
En 2050 ?
Ouais.
Ouais, c'est demain.
C'est d'après-demain, ouais.
Ouais.
Voilà, bonne journée.
Merci beaucoup, voilà. Christophe.
Ben non, mais je suis ravi. Merci beaucoup. Je rappelle que vous étiez, mesdames, messieurs, avec Hugo Micheron, qui a écrit ce super bouquin. Il faut s'y atteler, parce que c'est un travail de chercheur. Hein. On n'est pas dans du SAS. Mais c'est super intéressant. Ça s'appelle « La colère et l'oubli, les démocraties face au djihadisme européen » chez Gallimard. Merci, Hugo.
Merci à vous. Merci, Christophe. À bientôt.
Ciao.
Et je chante même. De Chavelle cherche copain. Des copains. De Chavelle cherche copain.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.